vote pour la science avec Isabelle Burgon.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Le Québec compte de très nombreux lacs, des zones de villégiature, de loisirs et aussi de mobilisation pour de nombreux citoyens. Les activités humaines, l'urbanisation en tête, agissent sur nos lacs. Les changements climatiques apportent aussi des changements de la hausse de température au ruissellement des polluants liés aux incendies. Un comité de sauvegarde du lac Cristal à Saint-Zénon se bat pour que ses eaux turquoises le restent, en dépit des coupes forestières prévues dans son pourtour. Car la santé d'un lac ne se passe pas juste entre ses rives. Il faudra s'attarder à l'ensemble du bassin versant, ce vaste territoire où circulent les rivières et autres aquifères, source d'approvisionnement de ses eaux. C'est donc ce large bassin qu'il faudra préserver pour la santé du lac. Comment prendre soin de nos lacs et les défendre? Pour le savoir, restez avec nous. Je vote pour la science. Aujourd'hui, nous intéressons aux luttes environnementales et scientifiques pour restaurer et préserver nos lacs. Pour en parler, je suis en compagnie de Véronique Bussière, qui est biologiste et directrice de la conservation bioculturelle à la Société pour la nature et les parcs, la SNAP Québec. Bonjour.
Oui, bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Béatrix Besner, professeure et directrice du département des sciences biologiques de l'UQAM. Bonjour.
Bonjour.
Le lac à la truite d'Irlande dans la région de Chaudière-Appalaches ou encore le lac Bibit dans les Laurentides, certains plans d'eau mobilisent les organismes et les citoyens inquiets de la qualité de ces écosystèmes aquatiques. Rappelons que le Québec est le gardien de 3% des réserves mondiales d'eau douce, que 70% de la population, c'est à peu près 5,7 millions de personnes qui s'abreuvent à une eau potable de surface, ces fleuves, rivières ou les lacs. Et ces citoyens vont signaler le myriophile en épi, nettoyer leur embarcation, mais aussi monter au front politique pour faire entendre leur voix pour préserver leur milieu aquatique. Madame Hussière, je vais commencer avec vous. Quelle est la situation actuelle des lacs au Québec?
C'est une excellente question. En fait, on se rend compte que dans les dernières années, on a de moins en moins d'informations à ce sujet-là. Mm-hmm. Donc, pendant plusieurs années, il y avait des suivis qui étaient faits. Une grande implication citoyenne dans ces suivis-là, notamment à travers le réseau de surveillance volontaire des lacs. Mais là, ce qu'on observe récemment, comme par exemple depuis 2016, il n'y a plus de publication de bilan annuel au niveau des cyanobactéries. Et depuis cet été, en fait, il y a des coupes au niveau du gouvernement dans les analyses de laboratoire qui étaient faites pour les suivis. Donc, on va avoir moins d'informations sur l'état de nos lacs.
Oui. Est-ce qu'on observe une dégradation ou une amélioration générale? Est-ce qu'on est capable quand même de dire ça?
Bien, si on regarde dans les années récentes, on avait certaines études qui démontraient que une grande majorité de nos lacs, malheureusement, sont affectés par des polluants. Mais par ailleurs, il y a quand même beaucoup de mesures qui ont été mises en place dans les dernières années. Vous avez mentionné de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, des bonnes pratiques au niveau du nettoyage des embarcations. Il y a une réglementation aussi au niveau du phosphore dans les savons et les détergents qui est en place depuis 2008, si je me trompe pas. Donc, ces actions-là ont eu un impact, puis on l'avait vu quand même dans certains indicateurs de santé des lacs. Donc, oui, une certaine amélioration, mais là, si on n'a plus d'informations pour la suite des choses, ça va être difficile de voir, d'évaluer c'est ça, pour la suite des choses, là, quelles mesures doivent être prises ou si on fait toujours bien les choses.
Oui. Professeur Besner, tout d'abord, un lac, c'est bien plus que ce qu'il y a entre deux rives, n'est-ce pas?
Oui. Oui, en fait, ça, c'est sûr que l'état d'un lac, c'est vraiment beaucoup affecté par le bassin versant dans tout le territoire autour qui mène à ce lac par le ruissellement de l'eau. Donc, les précipitations, ça tombe sur le milieu terrestre, mais ça s'envoie soit dans le sol ou éventuellement dans les lacs et les cours d'eau. Donc, c'est sûr que ce qui se passe dans un lac ou un cours d'eau, c'est beaucoup affecté par l'utilisation du territoire autour. Donc, si on parle d'urbanisation, d'agriculture, c'est des choses qui peuvent vraiment beaucoup affecter les lacs.
Généralement, les lacs du Québec, est-ce qu'ils sont beaucoup dans des territoires qui sont utilisés justement pour dans des zones agricoles ou tout ça?
Oui, je dirais au sud du Québec, oui. C'est sûr que toute la région de l'Estrie, les zones industrielles autour de la Beauce, c'est des régions, les Chaudière-Appalaches aussi, où il y a beaucoup d'industrie et incluant de l'agriculture. Plus au nord du Saint-Laurent, là on parle plutôt d'utilisation pas des riverains, souvent. Une fois, quand on parle des Laurentides, par exemple.
Oui, des végétatures, par exemple.
Oui, exact. Mm-hmm. Qui a aussi un effet, mais souvent c'est un peu mieux géré, je dirais, ou peut-être un peu, c'est à une quantité moins industrielle, disons.
Mm-hmm. Oui, oui.
Donc, souvent, oui, c'est géré à plus à l'échelle individuelle.
Mm-hmm. C'est pas les mêmes polluants, finalement, et c'est pas la même chose qui se retrouve dans le lac.
Exact, mais ça, des fois, c'est les mêmes polluants. Si on parle des engrais pour améliorer la croissance des végétations, il y a aussi des gens qui mettent ça sur leur pelouse, qui n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé non plus de couper tous les arbres sur leur terrain pour empêcher que l'eau ruisselle trop rapidement.
Oui, oui. Il y a des gens qui veulent voir absolument leur lac et qui se mettent à tout couper. Donc, Madame, Madame Bussière, le ministère des Ressources naturelles a autorisé la coupe de la forêt entourant le lac Cristal à Saint-Zénon. Pourquoi est-ce que ça pose une menace pour les eaux de ce lac?
Madame Bessner vient d'expliquer là, l'importance du bassin, la notion de bassin versant autour d'un lac, l'importance. La particularité du lac Cristal, bon, c'est déjà c'est un lac de tête, donc en amont, en haut. D'une rivière et de d'autres lacs qui vont couler vers le Saint-Laurent éventuellement. Et c'est un lac qui a un très petit bassin versant. Donc, même si la superficie des coupes qui a été autorisée en elle-même n'est peut-être pas si grande, elle affecterait 50 % du bassin versant. Donc, c'est quand même énorme. Le lac Cristal aussi étant un lac donc, de tête, c'est un lac qui est qu'on dit hyper oligotrophe, donc très pauvre en nutriments, ce qui est une bonne chose en fait. C'est ce qui fait que le lac est très pur, que ses eaux sont très claires, très cristallines, d'où son nom, le lac Cristal. On a des images, par exemple, du lac Louise dans les Rocheuses, mais c'est un peu la même chose. Le lac Cristal, c'est un lac qui est bleu, turquoise, cristallin, qui abrite quand même certaines formes de vie. Il y a des populations indigènes de Tsouladi et de truite d'omble de fontaine, pardonnez-moi. Le risque avec les coupes, une autre particularité du bassin versant, c'est que la couche de terre et de végétation est très mince, puis le roc est très, très proche. Donc, si on coupe, on a un risque très grand de lessivage, donc de tous ces sédiments-là, d'érosion, des sédiments qui vont se retrouver dans l'eau, qui vont venir enrichir l'eau, qui vont venir la troubler, bref, et qui vont avoir des impacts très grands sur le lac, mais sur tout ce qui se trouve en aval aussi, les rivières et les lacs en aval.
Oui. Il y a une mobilisation citoyenne pour ce lac-là?
Oui, il y a une grande mobilisation citoyenne. Il y a une mobilisation aussi des municipalités environnementales. En fait, ce qui est intéressant dans ces luttes-là, c'est que bon, les lacs, on le voit, les gens les ont à cœur, ils tiennent. Et à travers, quand il y a des projets comme ça, des menaces, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de certaines notions d'écologie, en fait, de certaines notions scientifiques, puis une prise de conscience de la fragilité aussi de ces milieux-là. Mmh. Donc oui, une grande mobilisation là, qui continue encore à ce jour, là, parce que le dossier n'est toujours pas réglé, en faveur de la protection de ce lac-là. Puis il y a même une proposition d'air protégé là, qui a été déposée dans les dernières années pour venir protéger l'entièreté du bassin.
Déposée par la STAP?
Non, déposée par la municipalité. Si je ne me trompe pas, avec le soutien des citoyens, il y a aussi la ZEC des Nymphes qui recouvre en fait une portion là, du bassin versant du lac.
OK, qui veut le protéger, ses eaux.
Mais avec le soutien de la SNAP Québec, là, ça fait quelques années qu'on travaille avec eux.
Entendu. Oui. Professeur Bessner, comment définir la santé d'un lac? Quand on dit un lac est en bonne santé, on entend quoi?
Oui, c'est souvent par rapport à ce que Mme Bussière a déjà mentionné, c'est que soit on parle de l'état d'eutrophisation, c'est-à-dire combien de nutriments se retrouvent dans le lac. Est-ce que c'est un lac assez pauvre en nutriments ou assez riche? Donc, souvent l'enrichissement, ça se fait par l'utilisation du territoire, comme on a parlé tantôt, quand on coupe des arbres, par exemple, aussi. Donc, cet enrichissement, ça fait que le lac devient souvent de moins en moins en santé. Donc, c'est une caractérisation, c'est par la quantité de nutriments. Ici, on parle surtout du phosphore et de l'azote comme étant les nutriments les plus importants pour la vie dans un lac. On a tendance à penser que plus c'est meilleur, mais c'est pas le cas avec les lacs. En fait, ce qu'on veut, c'est quelque chose. Les organismes aquatiques sont très, très efficaces dans leur capacité de capturer les nutriments parce que par le passé, avec l'évolution, ils ont évolué dans un milieu assez pauvre avant l'entrée des humains. Donc, ils sont très, très aptes à capter les nutriments. Donc, quand on enregistre, ils répondent en masse. Et ça fait dire biomasse des organismes qu'on ne veut pas voir comme les cyanobactéries. Oui. Donc, souvent, la présence des cyanobactéries, c'est une façon assez simple de savoir si un lac est en pauvre santé parce que c'est un indicateur d'un lac pollué.
Oui, malade.
Et là, je parle vraiment des floraisons de cyanobactéries.
Oui,
parce que
oui.
Les cyanobactéries sont toujours présentes, mais à faible densité parmi d'autres phytoplanctons. Mais quand ils deviennent l'espèce dominante ou les espèces dominantes à la surface du lac qui ressemble à un lac qui était dans lequel on a jeté de la peinture verte, là, on a un problème.
Oui, c'est ce qu'on appelle les algues bleues vertes, justement.
Exact.
En langage courant.
C'est ça.
Mais est-ce que quand un lac, quand il est eutrophisé, justement, est-ce que quand il vieillit, est-ce que tous les lacs, c'est pas l'avenir du lac? Quand un jeune lac ne l'est pas, mais quand il vieillit, il va l'être de plus en plus.
Il y a un peu de discussion dans le monde scientifique présentement sur cette question-là. Est-ce que c'est vraiment l'état naturel vers tous les lacs vont y aller? C'est sûr que les lacs se remplissent avec le temps.
Oui.
Mais on a beaucoup de lacs très, très profonds qui vont prendre des milliers d'années à se remplir. Et on peut poser la question, est-ce qu'on va avoir une autre glaciation? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui rentrent dans le temps géologique que ça va prendre pour remplir certains lacs? Donc, c'est pas nécessairement toujours le cas qu'ils vont devenir eutrophes. Ils vont se remplir, oui. Ils vont devenir de moins en moins creux. Mais est-ce qu'ils vont devenir vraiment eutrophes avec des blooms de cyanobactéries? Ça, c'est une question très, très ouverte encore.
Okay.
Mais oui, c'est pour ça qu'on parle souvent d'une eutrophisation culturelle, c'est-à-dire une eutrophisation qui est causée vraiment par les humains, par l'activité des humains dans les bassins versants.
Madame Bussière, beaucoup d'organismes de la société civile ont à cœur leur lac. Est-ce que les citoyens et les municipalités ont les outils nécessaires pour les protéger?
Il y a quelques outils qui sont à leur disposition. Les municipalités, par exemple, peuvent mettre en place des règlements. Tout ce qui est au niveau du nettoyage là, des embarcations, ça, c'est souvent dans la trousse à outils des municipalités de mettre en place ces réglementations-là. Ils peuvent mettre des réglementations aussi par rapport... En fait, il y a une politique, par exemple, de protection du littoral et des bandes riveraines, mais les municipalités peuvent mettre en place des règlements qui vont aller au-delà, qui vont être plus qui vont protéger davantage nos lacs que la politique en place. Le problème, c'est souvent l'argent pour la mise en œuvre. On fait beaucoup de plans de gestion, de plans d'action, de plans intégrés. Il y a des organismes de bassins versants aussi à la grandeur du Québec qui sont en charge de ça.
Ouais.
Mais comme je le mentionnais en début d'entrevue, il y a des coupures un peu partout.
Ouais.
Et parfois, on a la volonté d'agir, mais on a peu d'argent, par exemple, pour mettre en place une nouvelle station de nettoyage d'embarcation ou juste pour faire les analyses, pour acheter les instruments aussi, pour pouvoir faire les prélèvements. On le voit là, à la grandeur du Québec, il y a vraiment une mobilisation en faveur des lacs. Donc, il y a beaucoup d'yeux, il y a beaucoup de mains qui sont là, voilà. Mais parfois, c'est ça, il manque l'argent.
Les ressources.
Puis, peut-être un autre obstacle aussi qu'on observe, c'est qu'on a cette volonté-là d'agir au niveau local. Je parlais tout à l'heure là, d'air protégé. L'an passé, il y a eu un appel à projet du gouvernement du Québec, du ministère de l'Environnement, pour des projets d'air protégé. Puis on a vu, notamment dans les Laurentides, mais ailleurs aussi au Québec, plein de municipalités qui ont déposé des projets d'air protégé, des groupes citoyens, des communautés autochtones. Maintenant, il y a un certain manque de cohérence, je dirais, au sein de l'appareil mm-hmm. gouvernemental du Québec, parce que d'une part, on a le ministère de l'Environnement qui a lancé cet appel-là. On voit au niveau municipal une volonté puis une mobilisation. Mais on a le ministère des Ressources naturelles et des Forêts qui vient autoriser des coupes, souvent mm-hmm. même dans des projets déposés.
Oui. Donc, ils sont comme pas. Comme à Saint-Zénon.
Exactement, comme mm-hmm. à Saint-Zénon. Donc, c'est des projets qui ne sont pas encore finalisés, qui ne sont pas encore légalement protégés. Donc, malgré certains outils, on voit qu'il y a vraiment des défis à relever qui sont réels. Puis parfois, mm-hmm. Si les coupes arrivent, ou si, par exemple, Mme Vestant parlait de projets d'agriculture, là, notamment, je sais qu'il y a des enjeux de canne-bergère là, au niveau du sud du mm-hmm. Saint-Laurent, oui. Ben, on a des autorisations qui sont délivrées, mm-hmm. puis qui viennent parfois mettre vraiment en péril ces projets de protection-là, parce qu'à un moment donné, si la coupe est faite ou si le projet est autorisé, ben le ouais, mal est ouais. un peu fait.
Oui, c'est sûr. Justement, professeur Besner, comment se portent les lacs en Estrie avec l'impact de l'agriculture? Ce sont vos travaux.
Oui, c'est une bonne question. on a fait des études, mm-hmm. Mais ça fait un bon 6 ans que j'ai fait des prélèvements là-bas, donc je ne suis pas certaine dans les dernières années comment ça a déroulé. Donc, je suis pas 100% certaine que je peux commenter là-dessus. C'est sûr que, selon moi, les lacs sont pas mal encore affectés par l'agriculture. Il y a quand même une meilleure connaissance des facteurs qui influencent l'utilisation, et je pense quand même quelques démarches pour aider la situation, mais je pense avec la quantité d'agriculture qui se fait là-bas présentement, c'est encore un enjeu mm-hmm. important. Oui, donc, je pense que ce n'est pas réglé, mais avec certaines démarches, ça commence à s'améliorer probablement, mais c'est tellement une quantité énorme d'impact que c'est difficile de tout régler rapidement. L'autre problème, c'est que souvent les lacs vont avoir stocké des nutriments dans les sédiments, donc au oui. fond du lac, mm-hmm. Pendant des années qu'il y a eu des rejets de nutriments dans ces lacs-là. Donc, à la fin de la saison, quand la biomasse de tous les organismes est en train de mourir, ça va couler mm-hmm. dans le fond du lac et oui. rester dans les mm-hmm. sédiments. Et ça, c'est un leg qui va continuer à alimenter le lac pendant des années, même si on arrête toutes les entrées par l'agriculture. Donc, souvent, plusieurs lacs ont le problème d'être un peu comme coincés dans un état stable d'utilisation qui va prendre des décennies à régler. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter l'utilisation des nutriments le plus possible dans le bassin versant, mais mm-hmm. Souvent, le problème ne se règle pas immédiatement. Donc,
oui, ben en fait, tout ce qui tombe dans le lac reste dans le lac. C'est ça le problème.
Oui. Oui, Madame, ça reste là.
Oui. Donc, Madame Bussière, les réglementations sont-elles suffisantes et bien appliquées? On en a un petit peu parlé, mais j'aimerais que vous me parliez peut-être de la stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. Qu'est-ce qu'elle vise à réaliser en faisant la promotion d'une utilisation durable de l'eau?
Bien, il y a plusieurs objectifs mm-hmm. dans cette stratégie-là. Notamment de s'assurer de maintenir la santé des cours d'eau, de maintenir une eau potable aussi de qualité, oui, oui. Mm-hmm. De maintenir divers usages. Il y a aussi tout un pan économique. C'est ça qui parfois peut sembler un petit peu contradictoire. Mm-hmm. Donc, d'une part, on reconnaît l'importance et la richesse, si on veut, que représentent tous ces lacs-là au Québec. C'est un patrimoine collectif hein, pour les Québécois. Mais d'autre part, il y a aussi cette volonté-là d'en tirer profit. Mm-hmm. Exactement. Donc, c'est à travers un plan d'action qui est mis en œuvre et des suivis. Donc, c'est sûr que ça amène une volonté politique mm-hmm. De prendre soin de nos cours d'eau et de nos lacs. Par contre, on dirait que là, la stratégie, c'était 2018-2030. Mais d'après ce que je voyais, c'est ça. Il y a eu comme un élan dans les premières années, mais là, tout d'un coup, il y a un petit désengagement. C'est comme si là, soudainement, il y a d'autres impératifs qui viennent prendre le dessus.
Il y a eu la pandémie entre-temps aussi.
Il y a eu la pandémie, puis il y a tout...
La politique.
La politique, oui. Exactement. Mm-hmm. La protection de l'environnement, c'est... On a la science d'un bord et il y a la politique souvent qui vient parfois porter, mais parfois mettre des bâtons dans les roues. Ouais. Donc, on s'est doté d'une stratégie. Oui, le gouvernement du Québec a élaboré un plan d'action, mais encore faut-il le soutenir. Ce ne sera pas les citoyens seuls puis les municipalités seules qui vont pouvoir faire le travail. Puis, peut-être si vous me demandez au niveau de la réglementation, oui, t'sais, c'est parfois efficace, comme on l'a vu là, au niveau des détergents et des savons. Mais par d'autres réglementations, on dirait c'est un strict minimum. C'est comme de protéger 10 à 15 mètres de bandes riveraines.
Ouais, on est un petit peu dans le statu quo, finalement.
Voilà.
On reste sur nos acquis.
Exactement. Puis c'est comme si on n'ose pas, des fois, aller plus loin. Ceci étant dit, bon, j'en reviens aux aires protégées parce que, bon, nous, c'est quand même un des dossiers sur lesquels on travaille beaucoup à la SNAP. C'est un outil qui est là, qui est disponible, qui existe. On a différents niveaux de protection. C'est reconnu. Il y a une volonté, on le voit, d'une portion du gouvernement de mettre en place. Donc, c'est ça. Parfois, il y a des outils qui sont là qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment.
Peut-être pas assez, oui.
Ouais.
Professeur Besner, les lacs sont des lieux de vie et de villégiature. Quels sont les principaux enjeux ou défis avec les activités humaines pour les lacs?
Oui, il y a une gamme. Donc, c'est sûr qu'il y a les questions d'utilisation du lac en soi par les gens. Donc, les bateaux moteurs, les sidoux, c'est des enjeux importants, je pense, pour... on n'a peut-être pas tendance à toujours penser à la pollution sonore, mais c'est aussi un enjeu de plus en plus, explorer en écologie aquatique aussi. Donc, ça, c'est un enjeu pour les poissons qui entendent, et peut-être même d'autres organismes. Il y a beaucoup d'insectes qui utilisent des sons que nous, on n'entend même pas, mais en dessous de l'eau, ils utilisent des sons pour communiquer, pour trouver des partenaires de reproduction. Donc, c'est quand même des enjeux que on n'a peut-être pas toujours tendance à penser. Donc, c'est sûr, je pense que pas mal du monde a déjà entendu des problématiques des espèces exotiques envahissantes. On parle tout le temps de mirofilles présentement, mais il y a d'autres espèces aussi, incluant des animaux, qui peuvent perturber tout le réseau alimentaire dans un lac. On a parlé de la question de la pollution, les polluants. On a parlé beaucoup des engrais comme polluants, mais c'est sûr qu'il y a aussi des polluants comme les pesticides qui sont aussi des enjeux dans les milieux agricoles. De plus en plus, on parle aussi des PFAS. L'acronyme pour un long terme chimique, mais en fait, c'est un enjeu très important pour la santé de humain et pour la santé des organismes aquatiques. Oui. Et aussi l'enjeu des microplastiques de plus en plus dans les eaux douces.
Oui, on entend parler pour le fleuve Saint-Laurent, mais ils sont dans les lacs aussi.
Oui, et finalement, je veux juste terminer avec les changements climatiques. Quand j'ai parlé de la politique tantôt, c'est un peu l'enjeu qu'on voit, je trouve, ces jours-ci, c'est que les changements climatiques, c'est comme si ça a été rejeté par certains politiciens, et là, on n'en parle plus. Comme si c'était un enjeu, mais en fait, c'est l'enjeu, je dirais, le plus important. Et c'est un enjeu qui accélère tous les autres changements. Parce que ça interagit avec beaucoup d'autres interactions, comme la croissance des cyanobactéries qui est favorisée par les températures plus élevées et d'autres changements dans la stratification thermique des lacs et tout ça. Donc, il y a tous ces enjeux-là qui sont à la base affectés par les changements climatiques, mais chacun doit être résolu de sa façon aussi.
C'est sûr. Madame Bussière, comment encourager les citoyens à s'informer et à s'impliquer dans ces dossiers-là? Parce qu'on l'aime, notre lac, on vit à côté, on en a l'usage. Mais pour s'impliquer?
Oui. Bonne question. il y a beaucoup d'associations de lacs un peu partout au Québec. Donc, déjà de s'informer s'il y en a une dans le lac auquel on s'intéresse, à proximité, auprès duquel on vit, d'une part. Souvent, il y a déjà une association de lacs. S'il n'y en a pas une, possible d'en former une aussi.
Bien sûr.
C'est sûr que, bon, ça demande, comme je disais, du temps, de l'énergie, mais on le voit que ça intéresse beaucoup les gens. Ensuite, ben, on l'a vu dans différents dossiers dans lesquels nous, on travaille. C'est comme si, au début, il y a un certain enjeu qui mobilise les gens. Ça peut être l'accès, ça peut être les algues, la présence d'algues, la présence d'une espèce. Ou parfois, c'est même pas en lien avec le lac. On a vu sur certains projets, c'est des sentiers, par exemple, la destruction de sentiers. Puis là, soudainement, on fait faire des inventaires. Et puis là, on se rend compte de toute la richesse écologique des espèces qui sont là à proximité. Donc, ça, je pense que c'est un pas à la fois d'aller voir peut-être ce qui se fait ailleurs. Tu sais, la force un peu de l'entraînement, de voir, là, c'est ça. En fait, juste en tapant sur les réseaux, pas sur, ben, dans un moteur de recherche, là, actualité, c'est fou à quel point ça mobilise les gens dans les dernières années. Donc, je pense que juste d'aller voir un petit peu ce qui se fait, peut-être d'aller échanger avec des gens.
Oui, d'échanger avec ses voisins.
Échanger avec les voisins. Puis on le voit, c'est des moteurs pour aider à tisser des liens entre les gens. Tu sais, dans les projets, on parlait du lac Cristal, mais vous avez mentionné aussi en entrée le lac Bibitte, là, à lac Tremblant-Nord. On le voit qu'il y a vraiment des liens qui se tissent, des relations entre les citoyens, entre les villégiateurs, avec la municipalité, entre d'autres organismes aussi. Donc, il y a...
C'est des bonnes pistes, finalement.
Oui. Il y a plusieurs manières de s'impliquer. Puis, bon, même si, comme je disais, il y a un certain moins de financement, il y a quand même des outils qui sont là encore à disposition. Vous pouvez aller voir là, sur le site du gouvernement du Québec notamment. Il y a quand même beaucoup d'outils qui permettent aux citoyens de s'impliquer.
Professeur Besner,
oui. Je peux juste mentionner dans le CRIL, qui est un groupe de recherche interuniversaire en limnologie, limnologie étant l'étude des eaux douces, on a aussi beaucoup de ressources un peu sur la base des connaissances scientifiques sur les lacs. On a eu un programme qui s'appelait Menaces sur les lacs, qui devait avoir un lien sur notre site Internet. Donc, si les gens tapent GRIL, G-R-I-L, ils vont être capables de trouver nos ressources aussi. Donc, c'est plutôt scientifique, mais ça peut être une bonne formation pour des gens qui connaissent à peine l'écologie des lacs et leur fonctionnement.
Vous étiez directrice ces deux dernières années et co-directrice de ce groupe de recherche interuniversitaire en limnologie. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Béatrix Besner, professeure et directrice du département des sciences biologiques de l'UQAM, et de Véronique Bussière, biologiste et directrice de la conservation bioculturelle à la SNAP Québec. Merci.
Merci à vous.
Merci.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartcher, et à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, comme toujours, partagez-la, et vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse à sciencepresse.qc.ca. Je vous souhaite de passer tous et toutes une belle semaine à notre antenne.
Jing Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique.